L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion. C'est en direct à midi, c'est rediffusé à 18h et aujourd'hui, comme souvent le mardi, c'est science. On va parler virus, mais le sujet est bien vaste. Les virus auxquels s'intéresse notre invité sont particuliers. Quand on fait de la recherche, on doit se concentrer. On se trouve donc à un sujet pointu et on cherche dessus. La thèse de notre invité a pour titre « Norovirus, sapovirus et les huîtres, apport du modèle entéroïde intestinal et interaction avec les glycanes ». Bon, on n'y comprend pas grand-chose, en tout cas moi, mais on va y aller pas à pas et découvrir l'univers fabuleux des virus intestinaux avec Gabriel Euler. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est la saison des huîtres, presque, chic chic chic. L'ennui c'est que parfois les coquillages nous refilent des maladies. Elles proviennent soit de bactéries comme Escherichia coli ou alors de virus. Et vous Gabriel, ce sont les virus qui vous intéressent. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la différence entre les bactéries et les virus en termes de fonctionnement ?
Alors il y a une différence déjà majeure, c'est une différence de taille. Puisque les virus sont 10 à 20 fois plus petits que les bactéries. Donc il y a cette différence de taille. Et puis il y a aussi souvent la distinction qui est faite entre les bactéries et les virus, c'est que les virus ne sont pas tout à fait des organismes vivants, au sens où ils ont besoin d'un hôte pour se multiplier, alors que les bactéries sont capables de croître dans des milieux très variés, que ce soit dans les sources thermales avec des températures très élevées, mais aussi dans les fonds sous-marins ou dans la nature plus largement.
Et dans l'ensemble, en ce qui concerne les huîtres, c'est plus souvent des bactéries qui nous contaminent ou plus souvent des virus ?
Alors, le virus que moi j'ai étudié dans ma thèse, le norovirus, il est responsable de la majorité des cas de gastro-entérite suite à la consommation d'aliments infectés. Mais en fait, oui, il y a aussi une grande part des infections qui peuvent être causées par des bactéries lorsqu'on consomme. Les norovirus, c'est plutôt une petite proportion lorsqu'on consomme des huîtres.
Norovirus, alors ouais, voilà, donc on connaît, les virus, on en connaît très bien certains, comme le coronavirus par exemple, ce qui a beaucoup fait parler de lui, mais en fait, combien il y a de types de virus ? Enfin, je ne sais pas si vous le savez.
Des types de virus, alors ce qui est étonnant, c'est que même encore maintenant, avec tous les progrès de la technologie qui ont été faits ces dernières années, on se rend compte qu'il y a encore énormément de virus à découvrir. Récemment, on a découvert des virus qui ont un peu chamboulé la virologie en général, de par leur taille. Ils ont une taille extrêmement importante par rapport aux virus qu'on connaît d'habitude. Et ils sont donc, par exemple, ils ont été retrouvés dans des sédiments sous-marins ou dans des lacs. Et donc, ces changements de paradigme, ils remettent un peu en question le domaine. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore énormément de virus à découvrir, notamment, par exemple, quand on sait que dans une goutte d'eau de mer, il y a déjà plus de 1, voire 10 millions de virus, juste dans une goutte d'eau. Ça vous laisse imaginer l'étendue.
D'exemplaires ou de types de virus ?
Ah non, de
d'exemplaires.
Virus. Oui, d'exemplaires.
Ouais,
oui, oui.
D'accord.
En termes de types de virus, on doit être dans les dizaines de milliers, je pense.
Ah oui, quand même.
Oui.
Oui. Et donc plein de radicaux, enfin de préfixes. Hein. Donc vous, c'est quoi vos virus à vous ?
Donc moi, pendant ma thèse, j'ai étudié les norovirus et les sapovirus. Donc c'est deux virus qui appartiennent à la même famille, c'est les calicivirus.
Bon, et pourquoi ils s'appellent noro ou sapo, ça veut dire ?
Alors, par exemple, le sapovirus, il s'appelle sapovirus parce qu'il a été découvert pour la première fois dans la ville japonaise de Sapporo. Donc avant, on l'appelait saporovirus et c'est devenu sapovirus.
C'est plus simple.
Et pour norovirus, pareil, c'était la ville de découverte, c'est la ville de Norwalk qui a donné norovirus.
Et parfois, c'est d'autres critères qui définissent le nom,
Tout à fait. Donc ça peut être la géométrie de la particule virale qui peut avoir une forme particulière et qui peut donner son nom au virus, plus connu.
Et dans le cas de vos virus, c'est pas les vôtres. Ils sont de quelle taille ? Ils ont une taille standard ou pas ?
Les norovirus et les sapovirus, ils ont une taille assez similaire qui est de l'ordre de la trentaine de nanomètres.
Et c'est plutôt une moyenne comme taille ?
C'est plutôt une taille assez moyenne pour les virus, oui.
Et tous ces virus dont on a parlé, ils ont toujours le même type de fonctionnement, c'est ça ? Comment ils fonctionnent ? Vous dites qu'ils ont besoin d'un hôte, alors c'est quoi leur méthode, si on peut le généraliser ? Je ne sais pas si on peut
le
généraliser.
Alors, tous les virus, donc, ils ont besoin de cellules pour se multiplier, donc ils doivent pénétrer dans cette cellule. Donc en fait, il va y avoir des molécules exprimées à la surface des cellules qui vont leur servir de facteurs d'attachement, donc pour pouvoir se coller à cette cellule et ensuite pouvoir rentrer à l'intérieur. Et donc ça, c'est un mécanisme qui est assez commun au virus. Et une fois que ce virus va être à l'intérieur de la cellule, il va pouvoir utiliser la machinerie de la cellule pour pouvoir se multiplier. Et ensuite créer de nouvelles particules virales qui vont être relâchées par la cellule et qui peut parfois causer la mort de cette cellule.
Les molécules auxquelles s'attachent les virus, c'est par exemple, je crois que pour le coronavirus, c'est une protéine, c'est ça ? Mais c'est pas toujours des protéines ? Enfin, ça peut être quoi ?
C'est pas toujours des protéines. Par exemple, pour le norovirus, ça peut être des sucres. donc les glycanes.
Les fameux,
ouais. C'est ça. Et ces glycanes, par exemple, chez l'humain, ça peut déterminer le groupe sanguin. Et ces glycanes, c'est aussi ceux qu'on retrouve dans l'huître. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette similarité entre les deux qui va faire que les norovirus, ils peuvent parfois se retrouver piégés dans les huîtres.
Et les norovirus des huîtres, ils sont dans les intestins des huîtres ? Est-ce que les huîtres ont des intestins ? Ils sont où exactement ?
Les huîtres, elles ont des intestins, mais en fait, il faut bien garder à l'esprit que les norovirus, ils ne vont pas infecter l'huître. En fait, ce n'est pas un virus d'huître, c'est un virus qui peut infecter les humains, les porcs ou les chats. Mais en fait, il va se retrouver un petit peu dans tout l'organisme de l'huître. Mais l'huître, au fur et à mesure, elle va un peu se dépurer et ils vont rester majoritairement dans son système digestif.
Parce que l'huître, elle filtre, enfin, c'est un peu ça le problème avec les huîtres.
Exactement, ça va filtrer un petit peu toutes les particules qui sont en suspension dans le milieu. Et donc, évidemment, lorsqu'il y a de fortes précipitations pendant le temps hivernal, par exemple, les stations d'épuration, elles peuvent déborder. Et donc, tous les virus qui sont contenus dans ces eaux-là vont se retrouver dans le littoral et vont pouvoir être filtrés par les huîtres et donc ingérés.
Et ces norovirus, ou les sapovirus, peut-être, au départ, c'est nous qui contaminons les huîtres. Enfin, c'est les nôtres, ils viennent
exactement.
De nos intestins,
c'est ça ? C'est un peu un retour à l'envoyeur, en fait.
Ah, d'accord. Bien fait pour nous. depuis quand on sait que les norovirus ou sapovirus sont dans les huîtres ?
Alors, ce partenariat, cette association, en fait, elle est connue, enfin, elle est remarquée depuis des dizaines d'années, hein, mais en fait, ça a été vraiment mis en évidence, ou au moins suspecté, il y a une vingtaine d'années. Et en fait, on a toujours vu cette association. Et depuis peu, donc, on est vraiment sûr de ce lien, notamment au fait qu'on a ces particules, ces glycanes qui sont exprimées par les huîtres.
Ça, c'est grâce à vos recherches, notamment
Entre autres, en fait, mes recherches, elles ont un petit peu, si on veut, approfondi ce sujet-là, notamment en remarquant et en prouvant que ce glycane, il est vraiment, de manière structurelle, c'est le même que celui qu'on exprime chez les humains, dans les huîtres.
Et c'est pareil pour les norovirus et sapovirus, ils s'accrochent aussi aux glycanes
ou... En fait, non. Les sapovirus, ils n'ont pas besoin de ces glycanes pour infecter les cellules. Enfin, a priori, c'est ce qu'on a pu montrer dans ma thèse. Ce n'est pas encore 100% sûr, mais on a de bons résultats qui vont dans ce sens-là. Tandis que les norovirus, pour la plupart, ils ont besoin de ces glycanes.
Les effets des norovirus et des sapovirus sur les humains, quels sont-ils ?
Alors, on parle de gastro-entérite, hein, des symptômes classiques, douleurs intestinales, nausées, vomissements, diarrhée.
Et sapovirus aussi ?
Sapovirus aussi. Alors, pendant longtemps, on a laissé suggérer que les sapovirus pouvaient peut-être parfois donner des symptômes un peu plus légers. Mais quand on regarde certaines études, les résultats sont souvent un peu similaires, en fait.
Et c'est pas trop grave, mais ça peut être grave.
Là où c'est vraiment grave, c'est dans les pays qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Et en fait, rien que le norovirus, chaque année, il est estimé qu'il cause environ 200 000 décès sur la planète. Donc en fait, dans nos pays, c'est pas si grave, mais il y a d'autres pays où l'impact, il est bien plus important.
Mais pas seulement par l'intermédiaire des huîtres, je suppose.
Non, bien sûr. Oui, non. Oui. La contamination par les huîtres, ça reste vraiment une fraction très minoritaire des contaminations. Il faut vraiment pas avoir peur de ce genre de contamination-là.
Et les sapovirus, s'ils n'entrent pas avec les glycanes, les sucres, ils entrent avec quoi ?
Alors, pour l'humain, c'est encore débattu, et même pour d'autres souches, on ne sait pas encore trop quel est leur récepteur. On a une suspicion, je crois, par rapport aux souches porcines qui utilisent des acides sialiques. Alors, c'est ce que la grippe peut utiliser aussi pour rentrer dans les cellules. Et ça reste à démontrer encore.
Et c'est quoi, en gros, un acide sialique ?
C'est porté par les cellules et ça permet... ça a d'autres rôles biologiques, en fait, je crois, pour... sur les membranes des cellules.
C'est quand même utile. Ça nous est quand même utile.
Oui, oui.
Oui, parce que pour lutter contre ces virus, on pourrait se dire... quelles seraient les stratégies
Alors, par exemple, filtrer l'eau de mer, ça c'est déjà fait. Hein. Quand les huîtres sont prélevées du milieu pour ensuite les commercialiser, il y a une étape qu'on appelle la dépuration. On va les mettre dans des bassins avec de l'eau filtrée, traitée par des UV, par exemple, pour éliminer tous les contaminants microbiologiques. Mais le norovirus, il a la capacité de persister dans les huîtres pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Donc en fait, cette période de dépuration est essentielle pour que le virus qui est piégé, il perde son infectiosité. En fait, on va pouvoir toujours le détecter, mais le virus, il sera plus capable d'infecter les personnes qui vont le manger.
Et pour les sapovirus, on ne sait pas.
Le sapovirus, lui, il va être piégé moins longtemps puisqu'il n'a pas cette affinité pour les molécules qui sont présentes dans l'huître. Donc en fait, il va être vraiment éliminé naturellement par l'huître au bout de quelques jours.
Alors, quand vous faisiez votre thèse, vous travailliez pour l'IFREMER. Quel était l'objectif, en gros
Alors l'objectif, c'était vraiment d'approfondir cette connaissance sur les glycanes qui sont exprimés par l'huître, donc les identifier de manière structurelle, leur structure chimique, et aussi essayer de voir s'il n'y avait pas une sélection de certaines souches de norovirus par les huîtres. On a remarqué qu'en fait, les personnes qui ingèrent des huîtres et qui tombent malades par des norovirus, il y a certaines souches qui reviennent et pas d'autres. Donc on se demandait si les glycanes exprimés par l'huître ne favorisaient pas l'accumulation de certaines souches virales.
Et donc le but, c'était de développer les protections vis-à-vis des huîtres, au niveau de l'huître ou au niveau de l'humain, comment
Alors c'était, au début c'était plus de la recherche fondamentale, mm-hmm. mais on a aussi comparé, donc il y a l'huître creuse sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est Crassostrea gigas, le nom scientifique, donc c'est l'huître qui est majoritairement consommée en France. Mais on a aussi étudié l'huître plate, qui était avant l'huître la plus commercialisée, mais qui a subi de forte mortalité. Et en fait, on s'est aperçu que l'huître plate, elle est peut-être moins susceptible au norovirus. Donc, il y a des choses à creuser dans ce sens-là.
Et qui, enfin, il y a des. J'imagine que cette recherche continue avec d'autres personnes, c'est ça ?
Oui, bien sûr. Donc, dans la science, il n'y a jamais de réponse finale. Donc, ça ouvre d'autres portes à la recherche sur ce thème-là.
Et vous savez sur quoi portent les autres recherches en ce moment ?
Alors, dans mon laboratoire, je sais que c'est pas une thèse entièrement centrée sur les huîtres qui a été ouverte pour l'instant. C'est un peu plus large. C'est plus sur l'aspect bactéries, puis c'est aussi les bactéries qui sont importantes dans cette relation dans l'huître, bactéries, huîtres et virus. Il y a aussi tout cet écosystème-là qui joue un rôle important.
J'imagine que si ces recherches étaient bien financées par les Fremers, c'est parce qu'il y avait un enjeu économique. Enfin, il y a toujours d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Les ostréiculteurs, chaque année, ils subissent des pertes économiques lorsqu'on doit fermer ou annuler leurs ventes si jamais leur zone de production est contaminée. Donc, c'est vraiment un coût économique important pour les producteurs.
D'ailleurs, on a déjà fait d'autres sujets autour des huîtres. Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement à votre recherche ? Expliquez-nous un peu la cuisine.
Donc dans une thèse, déjà, souvent, c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, j'ai eu la chance de faire mon stage de Master 2 de 6 mois dans ce même laboratoire. Donc, j'ai pu m'approprier un petit peu le sujet et travailler sur l'huître, donc l'organisme d'étude. Et en fait, il y a vraiment un travail important de veille bibliographique. On va vraiment regarder tout ce qui s'est fait par le passé pour ne pas reproduire, par exemple, les mêmes expériences ou qui vont un petit peu ne rien donner et se donner des idées. Et puis ensuite, on va aussi utiliser les outils dont on dispose au laboratoire, notamment dans mon laboratoire, donc le laboratoire santé, environnement et microbiologie de l'IFREMER de Nantes. On avait les organoïdes à disposition qui sont un mode de culture cellulaire vraiment assez innovant que l'on a obtenu grâce à un partenariat avec les États-Unis, donc le Baylor College of Medicine de Houston. Et qui nous permet vraiment de faire des recherches de pointe sur certains virus. Donc moi, j'ai pu l'utiliser pour le sapovirus, par exemple.
Et c'est un organoïde humain ? Enfin, c'est quoi ? C'est une réplique d'intestin ?
Alors, pour simplifier, en fait, c'est vraiment dans nos intestins, nous avons des cellules souches qui se multiplient tous les jours pour pouvoir créer du tissu intestinal. Et en fait, ces cellules souches, elles peuvent être prélevées et cultivées dans un gel. Et en fait, on va vraiment avoir un espèce de mini-intestin dans une boîte qui va nous permettre de l'infecter avec des virus, par exemple, pour voir comment il se comporte.
Donc, pas besoin d'avoir des cobayes humains.
Exactement.
Vous n'auriez pas trop le droit, j'imagine. Non. Et donc, vous preniez les huîtres. Qu'est-ce que vous faisiez
Alors, ce qu'on pouvait faire avec les huîtres, par exemple, c'est les mettre dans un bac d'eau de mer et mettre du virus dans l'eau pour voir quelle proportion de ce virus est ensuite accumulée par les huîtres.
Donc, vous n'alliez pas prendre les huîtres chez l'ostréiculteur du coin. C'est important aussi de le préciser.
Alors, non. On a une plateforme expérimentale qui produit des huîtres pour nous. Donc, en fait, avec des conditions vraiment contrôlées. Parce que l'huître, c'est un organisme un peu particulier puisqu'il est dans la mer et donc soumis à des conditions très différentes au cours de la même journée avec la marée qui monte, qui descend, les conditions de température, de salinité, etc.
Donc, il vous fallait des huîtres vierges, entre guillemets, c'est ça ?
Alors, elles vont jamais être tout à fait vierges, puisqu'en fait, dans l'eau de mer, il va y avoir des bactéries, des micro-algues et toute cette faune associée. Donc, des huîtres vraiment exemptes de toute contamination du milieu, c'est impossible.
Ce qui était important, c'est qu'elles ne soient pas contaminées par d'autres virus, c'est ça ?
Et voilà, ouais. Pour pouvoir fausser les résultats. Donc, il faut vraiment des huîtres, si possible, exemptes d'autres virus.
Donc, vous inoculiez le norovirus ou le sapovirus ? Enfin, pas les deux en même temps, si, non ?
Alors, le sapovirus, moi, j'ai pas travaillé avec pour les huîtres, puisqu'en fait, si vous voulez, le stock de virus qu'on avait au laboratoire de sapovirus était très limité. Donc en fait, on a préféré le garder pour vraiment les expériences sur les organoïdes et étudier son fonctionnement et comment il infecte les cellules.
Ah oui, directement dans les organoïdes intestinaux. Donc l'huître contaminée par le neurovirus, vous la laissez combien de temps? Vous la regardez, entre guillemets, pendant combien de temps?
Donc il y a des pas de temps différents. Hein. Dans la recherche, souvent, ce qu'on fait, c'est plusieurs conditions. Donc souvent, c'est 24 heures ou 48 heures. Et rien que ça suffit à l'huître à capter une majorité des particules virales qui sont dans l'eau.
Et quand c'est fait, quand elle a capté, qu'est-ce que vous faites après?
Alors ensuite, c'est la partie la plus triste pour l'huître, c'est qu'on va l'ouvrir et récupérer les différents organes. Donc moi, j'ai travaillé sur le tissu digestif, sur les branchies et le manteau. Et en fait, on va regarder dans chacun de ces compartiments, de ces organes, la présence de particules virales ou non.
Et donc, il n'y en avait que dans son système digestif à l'huître, c'est ça?
Non, pendant longtemps, on a dit que les virus, ils se retrouvaient surtout dans son tissu digestif, mais... Moi, j'ai retrouvé que les virus, ils étaient en interaction avec ces trois organes.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, ça veut dire que les glycans dont je vous ai parlé plus au début, qui sont en interaction avec ces virus, ils sont a priori exprimés par dans tous les organes de l'huître.
Bon, et alors après, une fois que vous avez fait ça, quel est le rapport avec les organoïdes humains?
Alors, c'est deux choses différentes. Les organoïdes humains, c'est plus pour comprendre comment le virus il nous infecte. Tandis que les huîtres, c'est vraiment pour comprendre comment le virus il se comporte dans l'environnement et dans les huîtres.
Est-ce que vous preniez le neurovirus dans l'huître pour le mettre dans l'organoïde?
Alors, ça a été déjà envisagé. En fait, c'était pour savoir si l'accumulation par les huîtres du virus, est-ce qu'elle va changer son comportement?
C'est ça.
Donc ça, c'était des hypothèses qui ont été faites et qui mériteraient réflexion. Et puis,
le comportement du virus, pas le comportement de l'huître.
Ah, j'ai dit de l'huître, pardon.
Non, je ne sais pas.
Du virus, vraiment, d'accord, pour savoir si ça atténue sa virulence ou si ça l'augmente, par exemple. C'est des choses qui doivent être menées encore. Il y a toujours des choses à faire dans la recherche.
D'accord. Donc, mais vous ne pouviez pas prendre le neurovirus de l'huître et le mettre dans l'organoïde. C'est ce que vous faisiez.
C'était envisageable. En fait, c'est un autre problème. C'est que souvent, pour l'organoïde, il faut une charge virale assez importante pour pouvoir l'infecter. En fait, la part du virus qu'on va récupérer à partir de l'huître, souvent, elle est trop faible. Donc, il y avait des progrès à mener à ce niveau-là pour vraiment avoir une charge de virus suffisante pour passer de l'huître au virus, à l'organoïde, pardon.
Et dans votre labo, vous regardiez, entre guillemets, combien d'huîtres en même temps?
Alors ça, c'est pareil, en science, on aime bien avoir beaucoup de réplicas. Donc souvent, c'est des... Bon, moi, c'est à une petite échelle, ça va être une dizaine d'huîtres. Mais je sais que, par exemple, mon laboratoire, il était laboratoire national de référence pour le neurovirus. C'est-à-dire qu'il a des actions de surveillance à mener. Et en fait, lors d'essais interlaboratoires, pour vérifier que les laboratoires qui participent à ce réseau soient vraiment au niveau et capables de détecter les neurovirus dans les huîtres, il y avait des essais et en fait, on commandait des milliers d'huîtres dans le laboratoire.
Et sinon, vos organoïdes, quand ils étaient infectés, qu'est-ce que vous faisiez, vous, là vous faisiez quelque chose.
Oui, alors les organoïdes, pour les infecter, il faut faire une couche de cellules avec ces organoïdes au fond de plaques en plastique. Et en fait, on les infecte et au bout de 72 heures, on va, entre guillemets, tuer ces cellules et récupérer les acides nucléiques. Donc, c'est vraiment le code génétique du virus. Et ensuite, on peut quantifier cet acide nucléique pour savoir si le virus s'est multiplié ou non pendant ces 72 heures.
Et on n'a jamais vu de virus muté, dans votre expérience en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de muter génétiquement ou...
Alors, tous les virus mutent au cours de leur réplication, puisque c'est jamais un processus qui est parfait. Il y a toujours des petites erreurs et c'est un peu le moteur de l'évolution des virus. Il y en a certains qui vont muter plus que d'autres, mais tous les virus mutent pendant qu'ils se multiplient. Et en fait, ce neurovirus, donc, s'il était amené à vraiment muter de façon problématique pour les humains, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été encore observé, mais qui reste surveillé.
Oui.
En fait, ce qui fait le plus peur, ce serait un croisement, entre guillemets, entre une souche, par exemple, animale et une souche humaine, qui pourrait donner une nouvelle souche.
Et pourquoi ça serait plus forcément plus virulent ou
Non, pas forcément, mais disons que les caractéristiques des souches qui peuvent infecter les animaux ne sont pas tout à fait les mêmes que les souches qui infectent les humains, et notre système immunitaire aussi n'est pas forcément préparé à ces souches-là.
Mais c'est peut-être pas les huîtres qui les hébergeraient, ces mutants, entre guillemets.
Alors, on a déjà retrouvé des huîtres. En fait, les huîtres, vu qu'elles vont filtrer un petit peu le milieu, il va y avoir des virus qui proviennent de toutes sortes d'espèces, en fait. Et on a déjà retrouvé des souches porcines, par exemple, ainsi que des souches humaines dans la même huître.
pour ce type de virus, est-ce que ça a du sens de créer un vaccin, d'étudier un vaccin, ou est-ce que c'est plus, il faut plus éviter la contamination des huîtres, c'est plus ça la solution ?
De toute façon, les huîtres, ça ne va jamais être le vecteur majoritaire de cette contamination. Vous allez être contaminé par le norovirus, surtout avec des contacts, par exemple une poignée de porte qui n'a pas été lavée, ou des personnes malades qui sont dans votre entourage. La consommation d'huîtres, je le rappelle, hein, c'est vraiment minoritaire, il ne faut vraiment pas avoir peur de consommer des huîtres, sauf s'il y a eu vraiment une alerte de la part du producteur. Par contre, il y a des vaccins qui sont... il y a des recherches qui sont menées sur les vaccins qui pourraient être intéressantes dans les pays où, je l'ai dit, hein, l'accès à l'eau potable est limité et le norovirus peut causer des mortalités assez importantes. Le problème, c'est que ce virus, il est un peu évasif pour le système immunitaire et en fait, les vaccins, ils ne protègent pas toujours contre toutes les souches. Ça, c'est la problématique.
Eh oui, on le sait pour la grippe, on est à chaque fois obligé de réactualiser le vaccin. Là, vos recherches sur les huîtres sont terminées. Vous pouvez potentiellement travailler sur n'importe quel virus.
Alors, souvent, ce qui se passe après une thèse, c'est qu'on a acquis une première expérience de recherche sur un virus donné. Et en fait, cette expérience-là, elle est transposable à un autre sujet. C'est vraiment pas limitant. Je vais pas passer toute ma carrière après à travailler sur les norovirus, par exemple.
Quels sont les virus qui vous paraissent les plus intéressants pour un chercheur dans l'absolu, là, actuellement ?
Moi, je trouve que personnellement, c'est le virus de la rage, par exemple, qui est très intéressant, puisque donc il va vraiment, par exemple, vous allez être mordu par un animal infecté, et en fait, le virus, il va remonter jusqu'à votre cerveau en utilisant les nerfs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a aussi, je sais qu'il a une protéine particulière, ce virus, qui va un petit peu favoriser la survie des neurones. Et cette protéine, elle est intéressante pour, par exemple, lutter contre certaines maladies qui seraient neurodégénératives. Donc, il y a de la recherche qui est faite dans ce sens-là. Les virus peuvent nous donner des outils aussi pour nous aider à combattre certaines maladies.
Oui, c'est ça. On peut utiliser un virus pour le transformer en médicament. Ce qui est intéressant, c'est sa façon d'entrer dans notre corps, c'est ça ?
Oui, moi, c'est à titre personnel que je trouve ça intéressant, ce trajet qui est fait le long des nerfs pour remonter à sa cible, qui est le cerveau.
En effet. Et quels autres virus sont particulièrement intéressants en ce moment ?
En ce moment, moi, je trouve qu'il y a aussi le virus de la grippe qui est très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, ou en tout cas inquiétant, c'est son potentiel aussi pandémique. Il faut rappeler que la grippe aviaire, c'est une problématique qui est d'actualité. Et il ne faut vraiment pas prendre à la légère ces sujets-là. On l'a bien vu avec le coronavirus. De toute façon, je pense à titre personnel que dans les prochaines années, on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement comme celui-ci, qui s'explique par, de toute façon, la destruction de l'environnement par l'homme et les contacts de plus en plus rapprochés avec les animaux sauvages, par exemple.
Comment, à votre avis, vos recherches là, qui ont été menées sur les huîtres, sur quoi elles vont déboucher à terme, à moyen terme en tout cas ?
Alors, on peut imaginer, par exemple, donc, vu qu'on a prouvé que ce glycane il était capable de lier les virus, on pourrait imaginer, par exemple, dans une zone qui a été contaminée par des norovirus, de synthétiser des glycanes et de les mettre dans l'eau. Et en fait, ces glycanes pourraient agir comme un leurre et donc piéger les virus qui sont dans l'eau pour éviter que ces virus se retrouvent accumulés par les huîtres.
Ah oui, ça se fait déjà avec d'autres virus, ce type de stratégie, de leurre.
Alors,
c'est intéressant.
Pas à ma connaissance, en tout cas, dans l'environnement, je ne crois pas. Mais ça pourrait être envisagé, oui.
Et sinon, les stratégies antivirales, la plupart du temps, c'est quoi ?
Alors, donc, contrairement, par exemple, on parle beaucoup des bactéries, des antibiotiques, les antibiotiques qui vont agir directement sur le métabolisme des bactéries ou sur leur enveloppe, ça va ensuite les tuer. Les stratégies antivirales, souvent, ça va agir sur, par exemple, les enzymes qui vont permettre au virus de se multiplier. Par exemple, dans le cas du VIH, il y a des traitements très efficaces qui existent. Mais par exemple, pour le norovirus, il n'y a pas vraiment de molécules pour l'instant qui ont été découvertes pour lutter contre ce virus-là. En fait, vu que c'est des symptômes qui sont assez légers, souvent, on va laisser simplement faire notre système immunitaire qui va s'en débarrasser très bien tout seul.
Et sinon, on traite les symptômes. Enfin, par exemple, j'ai l'impression que pour le coronavirus, c'est un peu ça qu'on fait.
Oui, c'est ça. En fait, ça va souvent être des traitements basés sur les symptômes, mais pas sur le virus en lui-même, puisque la mise en évidence de molécules qui agissent vraiment directement sur les virus, elle est un peu compliquée. Souvent, les essais in vitro, ils ne vont pas donner des vrais résultats ensuite in vivo, chez l'homme. Et puis aussi, ça peut engendrer l'apparition de mutations et qui va rendre les virus résistants à ces traitements. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la
Les essais en...
Ah non, pas les essais, mais non, si on généralisait un certain traitement, ah, ça pourrait avoir... l'apparition d'une souche qui résisterait à ce traitement et ça compliquerait bien les choses.
Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi.
Mais en fait, en termes d'évolution, les virus, l'apparition de mutations, j'ai dit, c'était vraiment un moteur dans l'évolution. Et il suffit qu'il y ait un virus qui survive à ce traitement-là et qui ensuite se multiplie il va devenir majoritaire et oui. Donc le traitement n'aura servi à rien.
Oui, d'accord. Oui, oui. Et d'ailleurs, je crois que dans nos cellules humaines, nous hébergeons l'ADN d'anciens virus, c'est ça ? Enfin, vous pouvez juste nous raconter ça ?
Ah, tout à fait. Donc, oui. Les virus, ils vivent avec les autres êtres vivants depuis de nombreuses années, hein, des millions d'années. Et en fait, on a remarqué dans les années 2000, je crois. Donc, en fait, il y a une protéine qui est dans le placenta humain, qu'on appelle la syncytine. Et cette syncytine, elle dérive d'un génome de virus qu'on a dans notre propre génome. Il s'est intégré il y a des dizaines de millions d'années et il perdure. Et en fait, on a de nombreuses zones dans notre génome qui vient d'anciens virus qui se sont intégrés dans notre génome.
Et qui nous servent, qui ont une fonctionnalité
utile.
Tout à fait.
Donc en fait, la majorité, au fur et à mesure de l'évolution, ils ont perdu leur fonction. Ils sont plus, ils donnent plus de protéines actives, ils sont plus actifs. Mais il y en a certains qui sont encore utiles aujourd'hui pour notre évolution et nos fonctions biologiques.
Bon, eh bien, c'est le monde merveilleux des virus, je l'avais dit. Merci beaucoup, Gabriel Heuler. Vous reviendrez quand vous aurez un autre sujet de recherche à partager avec nous. Puis on mettra sur le site internet de la radio aussi la petite vidéo que vous aviez faite à propos de votre thèse.
Merci beaucoup.